Salut les gens qui se bougent, salut les rebelles intelligents, je suis actuellement avec Soumeya. Salut Soumeya.
Salut.
Ça va?
Ouais, ça va et toi?
Bah oui, donc Soumeya, on s'est rencontrés récemment à un événement de The Family à Londres. Ouais. C'est leur deuxième événement d'ailleurs. Et tu m'as dit, ouais, c'est super The Family, moi je suis en train de faire un truc similaire en Afrique.
Ouais.
Et donc quand tu m'as parlé de ça, bah, j'étais vraiment très intéressé. D'ailleurs, on en a parlé pendant pas mal de temps après. Donc je me suis dit que ça serait sympa de partager un petit peu ton aventure entrepreneuriale avec nos auditeurs. Enfin, je ne sais même pas si on peut dire auditeurs avec les gens qui regardent sur YouTube. Comment on peut vous appeler les gens qui regardent les vidéos sur YouTube, les visionneurs? Enfin, ça fait pas terrible. Bon, bref, vous me laisserez un petit commentaire pour nous donner votre avis là-dessus. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? D'où tu viens?
Alors, je m'appelle Soumeya Rachedi, je suis franco-algérienne, je suis née en Algérie, j'ai grandi en Algérie et je suis partie en France pour faire mes études et maintenant j'habite à Londres pour après des études de droit pour travailler dans un cabinet d'avocat en tant que paralegal.
En tant que quoi?
Paralegal,
donc tu es assistante d'avocat en gros, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait des études pour être avocate en France et ici ils avaient besoin de quelqu'un qui soit qualifié, donc c'est pas du secrétariat juridique, mais c'est du boulot qualifié pour étrangers. Je travaille sur les cas, je fais un peu du travail d'avocat junior sur des affaires francophones avec des pays africains ou arabophones, puisque je parle et j'écris l'arabe aussi, donc je travaille sur... en arbitrage international, que sur des cas internationaux, que sur des affaires comme ça.
Ok.
Donc voilà, ça c'est le volet travail salarié quotidien de bureau, qui est vraiment très intéressant intellectuellement, mais que je ne me vois pas faire ad vitam aeternam.
Ok.
Voilà. Pour l'affaire similaire à The Family, alors c'est pas vraiment similaire, parce que c'est pas un incubateur.
Ok.
C'est un accélérateur de start-up qui s'appelle Startup Altitude.
Quelle différence tu fais entre un incubateur et un accélérateur?
Donc l'incubateur accélère aussi, mais l'incubateur offre de l'infrastructure vraiment matérielle systématiquement.
Donc un bureau par exemple, voilà.
Un bureau, un lieu pour se poser, pour développer sa start-up, etc. Et une sorte de cadre pour que la start-up puisse évoluer avec des gens qui peuvent mentorer évidemment à côté, mais c'est surtout, selon moi, la principale différence, c'est vraiment l'incubateur, c'est l'infrastructure, l'accélérateur, c'est vraiment le contenu, le mentoring.
D'accord. Donc c'est purement du conseil, dans le cas de l'accélérateur.
Pour notre cas, c'est un accélérateur assez particulier, c'est du conseil, du coaching et du mentoring, et c'est du network.
Ok.
En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire.
Donc une mise en relation avec les gens.
C'est ça.
Ok.
Mise en relation avec les gens. Pour un public assez spécifique, parce que notre marché, c'est les marchés émergents, africains notamment, on commence en Afrique, mais un de mes associés est indien, donc le marché asiatique est aussi ciblé. Et on voit des choses comme... Enfin, l'aspect network est très important évidemment aussi en Europe, mais pas de la même façon, parce que les startups ne sont pas confrontées aux mêmes barrières aux frontières que les startups dans les pays émergents, africains, asiatiques, etc.
Hmm. Oui, il y a un vrai challenge en Afrique par rapport aux entrepreneurs. J'ai pu le voir, enfin je le vois déjà tous les jours puisque je sais que vous êtes nombreux à me suivre au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans d'autres pays d'Afrique et que parfois vous souhaitez acheter des produits, vous ne pouvez pas parce que c'est interdit dans la plupart des pays africains de dépenser de l'argent avec une carte internationale, de faire sortir l'argent du pays. Au Maroc, ça a été autorisé en 2011 à hauteur de 10 000 dirhams par an, ce qui fait 1 000 euros par an. Les Marocains ont le droit d'acheter sur le web en dehors du Maroc pour 1 000 euros par an, vous vous rendez compte? Pour beaucoup d'Européens, ça paraît être un autre monde. Et donc, c'est ce genre de challenge auquel font face les startups de ces pays-là.
Il y a le problème du paiement en ligne, il y a le problème dans les pays africains francophones en particulier, des problèmes d'administration hyper lourds, de lenteur, etc.
Pour tous ceux qui se plaignent des lenteurs en France, c'est rien à côté de toi. Tu connais bien l'Algérie, tu me disais que c'est bien, bien pire.
Ouais, c'est vraiment compliqué. En fait, la lenteur administrative met vraiment les startups dans une temporalité complètement différente. Pour moi, c'est vraiment le principal problème. Une temporalité complètement différente par rapport aux autres startups avec lesquelles ils sont en compétition. Et quand on est une startup, on pense, 6 mois, c'est une éternité. Quand on est une startup en Algérie ou dans un pays africain, 6 mois, ça peut être à peine le temps qu'on met pour obtenir un papier. Pour enregistrer sa boîte, par exemple.
Ouais.
Donc ça change complètement les challenges. Donc en tant qu'accélérateur, on doit répondre à ça, genre offrir des solutions à de tels problèmes. C'est pas dire les problèmes sont trop difficiles, il ne faut pas faire votre start-up là, parce qu'ils sont confrontés à des problèmes de visa, des problèmes de partir ailleurs, ils ne peuvent pas faire du forum shopping comme on peut appeler ça en France ou en Europe, c'est-à-dire choisir leur pays pour choisir un pays pour des raisons fiscales ou pour des raisons législatives,
réglementaires. Et on voit que ça existe beaucoup en Europe.
Ça existe beaucoup.
J'ai discuté récemment avec la femme d'Oussama Ammar qui a créé une start-up au Mixi.
De healthcare.
Dans la santé. Et elle est venue à Londres parce qu'elle n'avait pas le droit de la créer en France. Notamment parce qu'ils proposent un séquençage génétique complet. C'est interdit pénalement en France. Les Français n'ont pas le droit de se faire séquencer leur code génétique.
Bon, bref, voilà un exemple. En Afrique, ce n'est pas possible de se balader comme ça d'un pays à l'autre. Pour un Algérien d'aller au Maroc, par exemple, j'imagine que les restrictions réglementaires sont plus ou moins les mêmes.
Elles peuvent être similaires sur certains plans, mais elles sont pas exactement les mêmes. Mais globalement, selon moi, enfin, j'ai eu la nationalité française assez récemment et ça a tellement changé ma vie d'obtenir le passeport français que finalement, c'est la réflexion de l'entrepreneur quelles sont les solutions pour comment on fait pour trouver des solutions à quel problème, à tel et tel problème. Pour moi, être algérien ou être marocain ou être tunisien ou issu d'un autre pays africain, que ce soit le Sénégal, le Nigeria ou le Rwanda, il y a un problème de mobilité qui est complètement archaïque par rapport à la. Qui est complètement aux antipodes en fait, des exigences et du monde des startups et du monde entrepreneurial et de la vitesse à laquelle va le monde aujourd'hui. Juste obtenir un visa français aujourd'hui peut prendre jusqu'à 3 mois.
Wow.
Ou 4 mois, c'est absurde. Pour avoir un rendez-vous, aller au consulat, obtenir, c'est complètement absurde. Enfin, selon moi, c'est complètement, c'est assez archaïque. J'ai juste pas d'autres mots de devoir.
Du coup, les start-upers dans ces pays-là peuvent pas aller se former dans les pays occidentaux, à part sur Internet, bien sûr, mais ils peuvent pas venir. C'est aussi un réservoir de ressources dont on est coupé, du coup.
Complètement.
Ouais.
Ils peuvent pas aller se former ailleurs, ils peuvent pas aller créer leur entreprise ailleurs en faisant du forum shopping comme peuvent faire des Français ou des Anglais. Ils peuvent pas se connecter avec le reste du monde parce que finalement ça les isole beaucoup. Et je suis très bien placée pour savoir à quel point c'est riche, c'est enrichissant d'être au contact d'autres personnes ailleurs.
Complètement.
Donc, ouais.
Et donc, ton accélérateur, c'est quoi son nom?
Startup Altitude.
Startup Altitude. Donc, vous avez un site web pour ceux qui sont intéressés. De toute façon, je vous ai mis le lien dans la description.
Comment donc, on voit bien tous les problèmes qui sont quand même assez immenses en Afrique pour les entrepreneurs. Comment Startup Altitude se promet d'aider les start-upers africains à dépasser tout ça?
Alors, on essaye de penser, et on en a parlé pas mal la dernière fois, pas en termes de problèmes, mais en termes de solutions. À partir du moment où on s'adresse à un public de start-upers africains ou nord-africains ou arabes, parce qu'on fait MENA, donc Middle East, North Africa, ou Afrique pour l'instant, et Southeast Asia pour l'année prochaine, donc Inde, Indonésie.
Ah oui, carrément. C'est vraiment tous les pays émergents. Okay.
Ouais, et l'Amérique
latine, c'est très ambitieux.
Même des pays comme Cuba ou des pays comme l'Iran.
Ouais, Cuba, ça va leur faire un choc culturel.
Ouais, ça commence à bien s'ouvrir. Cuba et l'Iran, c'est des pays qui nous intéressent beaucoup. La Birmanie, ça nous intéresse beaucoup. Parce que la plupart des gens n'y voient que des obstacles. Donc un pays comme la Birmanie, par les startups, c'est assez compliqué.
Alors la Corée du Nord, du coup, non?
Pas
encore, c'est pas dans les challenges immédiats.
Non, pour l'instant, on n'est pas là. Là, pour le coup, je pense que c'est un peu compliqué. Mais essayez d'envisager les choses comme quelles solutions on peut apporter avec les outils qu'on a. Donc, grosso modo, on s'est posé à quatre. Qu'est-ce qu'on peut offrir? Toi, qu'est-ce que tu peux amener? Toi, qu'est-ce que tu peux amener? Toi, qu'est-ce que tu peux amener?
Parce que vous êtes quatre, on est quatre. Co-fondateurs, ouais.
Quatre co-fondateurs. Donc un Marocain, un Belgo-Marocain, moi franco-algérienne et un Indien qui habite en Belgique.
C'est très international.
C'est très international. On s'est rencontrés, donc deux que j'ai rencontrés en Colombie à l'occasion d'un congrès et qui sont venus en Algérie en juillet parce que je les avais invités à un événement. Et on est devenus associés avec le quatrième, donc le Belgo-Marocain qui est venu en Algérie aussi parce qu'on l'avait invité et on a formé le Quatuor à ce moment-là. Donc, Le belgo-marocain est un digital nomade, il a déjà deux startups, il fait le tour, enfin il n'a pas de maison, il travaille sur son Mac un peu partout dans le monde.
En ce moment, c'est un copain.
C'est un copain. Ouais. C'est ça. Donc il est en ce moment il est au Belize, je crois.
D'accord.
Donc il est consultant, il a sa startup, etc. Et le marocain, il a déjà sa startup, c'est Evaptainers. C'est une social enterprise pour, c'est une social enterprise. Donc, il a déjà fait l'expérience. Sa startup, enfin, c'est même plus une startup. Elle a déjà 3 ans maintenant et elle commence à être. Ils vendent bien. Ouais. Elle est bien rentable. Ils ont obtenu plein de financements.
Donc, c'est déjà un entrepreneur aguerri.
Ouais, il a déjà obtenu pas mal d'investissements. Il est posé. Il est au Maroc, donc il est.
Il connaît bien l'environnement.
Il connaît super bien l'environnement. Kiran, donc l'Indien, lui, il fait le tour du monde des événements. Il organise des August Fest en Inde, qui est un des plus grands. Des August Fest.
Je ne connais pas.
10 000 participants. Wow. C'est un énorme festival de start-up en Inde.
Quelle ville ?
Donc, il fait à Bangalore. Il a fait aussi un événement sur le Women Entrepreneurship à Delhi.
Wow.
En ce moment, il fait un événement à Barcelone pour décembre sur le Women Entrepreneurship aussi. Donc, en gros, quand on s'est posé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut apporter ? Moi, qu'est-ce que je peux apporter en tant qu'Algérienne ? Avec mon expérience, quels sont les points forts et les points faibles de chacun ? Et sur quoi on peut chacun se concentrer ? Donc, moi, évidemment, je m'occupe du volet législatif et de la construction administrative. Du truc et de s'occuper aussi des obstacles réglementaires auxquels les startups sont confrontées. Mmh. Et je m'occupe aussi du network parce que j'arrive. Je sais comment durabiliser, enfin comment rendre durable.
C'est bien, tu rentres avant des mots, c'est cool. De toute façon, je pense que tout le monde a compris, il n'y a pas de problème. C'est ça aussi l'univers des startups, on crée une nouvelle chose. Pourquoi pas créer des mots, tu vois ?
Ouais, je crée des mots dont j'ai envie.
On va durabiliser les entreprises.
On va durabiliser les entreprises. Donc, rendre durable. Non, essayer de vraiment créer des relations et les. C'est le mot sustainable qui me vient à l'esprit, mais vraiment faire des relations durables. Et donc, je suis chargée un peu. Ouais, et du business development et du relationnel un peu pour ramener des mentors, des coachs, les mettre sur notre plateforme, les connecter aux startups, les aider à évoluer, leur offrir des solutions qui viennent de partout dans le monde pour finalement en faire une sorte de cocktail qui soit adapté à eux.
Waouh, mais c'est une belle équipe tout ça. Vous avez démarré quand alors ?
En août dernier.
Donc ça fait 3 mois là.
Ouais, l'idée est née en juillet.
Mais alors tu m'as dit que vous avez déjà des succès à votre actif. C'est ça qui est incroyable. C'est aussi pour ça que je voulais faire l'interview, parce que c'était juste un projet. Bon, j'aurais attendu un peu, mais là, il y a déjà eu des choses concrètes qui se sont passées. Alors, tu peux partager ça un petit peu ?
Ouais. Alors, donc l'idée est née en juillet, à l'occasion de Entrepreneurship Summer School Algeria. Et ça.
C'est un événement donc en Algérie, à Alger peut-être ?
Un événement que j'ai participé à organiser. J'ai fait partie. Donc, c'est GN Algeria qui organise, le Global Entrepreneurship Network en Algérie, dont je suis la cofondatrice. C'est un événement qui a réuni 4800 étudiants à Alger en juillet dernier.
Waouh!
Qu'on a organisé en 3 mois.
Super!
Donc c'était exceptionnel. Enfin, vraiment. C'était une expérience vraiment hallucinante. Mais on est tous unanimes pour dire.
4800 personnes, c'est quand même quelque chose.
4800 personnes, que des bénévoles qui l'ont organisé. Que des bénévoles. Donc avec tous les couacs organisationnels qu'un événement de cette taille peut organiser, peut avoir en 3 mois en Algérie, avec que des bénévoles. Donc autant dire que c'était impressionnant. Donc c'était sympa. On a réuni. Donc c'est là que le network joue. Bah, j'ai ramené des amis, parce que je fais pas des contacts, mais je fais des amis qui sont venus. Gratuitement, juste pour voir l'Algérie, pour visiter, pour nous voir et pour coacher les startups en même temps. Enfin, pas les startups, parce que c'était un événement pour les étudiants.
Pour coacher les étudiants.
Coacher les étudiants, on a fait des compétitions de startups. Il y a des idées qui sont nées là, qui ont fait la compétition Startup Altitude en septembre, donc 2 mois après. Donc bref, une sorte de bouillonnement et d'énergie énorme. Startup Altitude est née.
Parce que tu as rencontré tes 3 associés à cet événement-là.
Non.
Tu les as fait venir.
Ouais.
D'accord, ça. Donc tu les connaissais déjà et c'est là que
vous avez. Je connaissais 2 sur 3.
Ça vous a C'était l'ampoule au-dessus de votre tête, quoi.
Ben, en fait, on voyait que les idées étaient là, que l'énergie était là, que les gens étaient... Enfin, ils sont formés, ils sont compétents, y a tout. C'est comme si on avait tous les ingrédients et qu'il n'y avait pas le wok pour tout mettre dedans.
C'est pas mal, ça, comme image. En fait, vous avez été le wok, alors, finalement.
Donc, on aimerait être le wok.
D'accord, ouais.
L'objectif, c'est d'être le wok, ouais. C'est vraiment tout mettre. Le wok et la sauce soja.
La sauce soja. C'est plus sympa avec la sauce soja.
Ouais, c'est plus sympa.
Yes.
Donc voilà, essayez de mettre tous ces ingrédients-là. Il y a un cocktail assez hallucinant et il n'y a pas de lien. Quand on parle d'écosystème, c'est aussi c'est quelque chose d'assez fluide où il y a pas mal d'acteurs de l'entrepreneuriat qui se réunissent et qui se connectent assez facilement, où les rouages fonctionnent assez bien. Et là, ça coinçait à un moment donné où on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui étaient faites au stade de l'idée pour encourager les idées. Mais qu'à aucun moment on arrivait pour dire aux startups ayant un MVP, donc le minimum viable product, qui ont déjà leur produit.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, là on parle de la méthodologie d'une startup qui consiste à se connecter le plus rapidement possible avec la réalité du terrain. Donc on met en place un produit minimum viable. Donc au lieu de passer 3 ans à créer le super produit dont finalement on se rend compte trop tard que dont tout le monde se fout complètement, on crée très très vite la version la plus minimaliste possible du produit pour voir si ça intéresse les gens.
Donc, on a lancé Startup Attitude en disant, bon, on cherche des startups.
Et vraiment, en utilisant cette méthodologie, une startup de A à Z. Ouais.
Donc, vous avez une idée de produit, mettez-la en œuvre, il y a une compétition qui arrive, ramenez-la. Et si ça nous plaît où vous êtes, on avait fait une journée de mentoring, coaching, du one-on-one, donc avec tous les... En fait, on fait des tables avec des tours de table, avec chaque startup et chaque équipe autour d'une table, ils bossent sur leur truc, et les mentors et les coachs qui passent dans chaque table, et c'est chronométré, donc comme du speed dating, et on fait top, et chaque coach,
business speed dating alors.
Business speed dating. Donc votre business model c'est quoi? Pitchez-moi, dites-moi ce qu'il y a, qu'est-ce qui est bon ou pas, c'est quoi votre produit? Donc on a eu des prototypes, on a eu des applications, comment ça fonctionne, c'est quoi votre marché, c'est quoi votre truc, avec du travail sur le public speaking, la prise de parole en public, avec des coachs sur la prise de parole en public, etc. Donc les startups ont adoré, donc c'est du one-on-one. On a fait une sélection hyper drastique pour que tout le monde ait du temps avec les coachs. Premier jour, donc demi-finale, tout le monde a fait le petit pitch. Donc c'est une sorte d'oral où chacun pitch, fait une présentation ou pas à ce moment-là. 3 minutes par start-up. On en a sélectionné 3. On en a sélectionné 10, pardon. Et le lendemain, donc tout le monde repasse, grand pitch, on était au Palais de la Culture d'Alger. Et là, pareil, donc grand jury, grand oral, et on a sélectionné donc 2 qui ont gagné, une en Green Technology qui est partie au Maroc à la COP22, et une générale, donc c'était une plateforme de e-learning qui est partie à Istanbul pour la startup conférence.
Et donc là, du coup, comment vous avez financé tout ça?
Sponsoring.
Waouh, et vous avez réussi à trouver des sponsors sur un projet qui démarrait comme ça? C'est impressionnant. Wow. Et leur petit de sponsor, c'est pour avoir une idée un peu de...
Je peux dire le nom de la marque et tout.
Ah oui, vas-y.
Donc c'est Condor. Ouais. C'est une entreprise algérienne brillante qui est un peu à la recherche aussi des marchés internationaux et à qui on offre aussi la plateforme d'aller dans...
Donc non seulement ils ont un coup de cœur, mais en plus, c'est aussi une bonne vision stratégique pour eux.
Ça correspond complètement à leur stratégie, ouais. Ils fabriquent des smartphones, des tablettes et tout, c'est des fabrications complètement algériennes.
Ah oui, voilà.
Ils vendent très bien, ils sont installés sur le marché algérien, leurs produits sont de qualité, leurs smartphones marchent bien, ils sont à un très très bon coût, etc. Donc pour les pays émergents, c'est vraiment génial, c'est une très très bonne cible, y compris pour... c'est des très bons produits et bon marché, le rapport qualité-prix est hallucinant. Donc du coup, ils nous ont financés parce qu'on correspond aussi à leur stratégie de développement international. Et ils ont financé l'événement, ils ont accompagné la start-up... à Istanbul et ensuite au Maroc. Marocains qui a eu lieu dimanche dernier.
Alors, tout ça, c'était la première étape. Il y a eu d'autres choses depuis, de fait, ou... C'est déjà énorme, attends, c'est incroyable. Alors, je pense qu'une des premières leçons qu'on peut tirer de cette interview, c'est fast action, tu vois. C'est fast action taker, là. Vous êtes super impressionnant en termes de rapidité d'exécution. Et c'est souvent ce qui fait la différence. On voit, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'idée de Facebook en même temps que Facebook, qui ont la même idée qu'Instagram, la même idée que Airbnb. Qu'est-ce qui a fait la différence? Entre autres, c'est la rapidité d'exécution, puis aussi la qualité d'exécution. Donc quand vous avez une idée, dites-vous qu'il y a au même moment, dans un autre endroit du monde, il y a un mec qui a la même idée que vous, et que si vous la rangez dans un tiroir, lui, il va sans doute pas le faire.
Ouais. Ça, c'est assez incroyable, parce qu'on était à distance. Parce que, enfin, j'ai l'impression que c'était il y a 3 ans, tellement...
Alors que
c'était il y a 3 mois. Ça a été des nuits de Skype et de Viber et de Imo.
Surtout qu'à côté, t'es pas en vacances non plus. T'as quand même un boulot d'avocat qui est assez prenant. Bon, je te disais tout à l'heure que t'es l'avocat la plus relaxe que je connaisse, mais quand même.
Ouais, je suis relaxe.
T'es très relax. Je pense que tu m'as dit c'est la méditation, mais quand même, boulot d'avocat. Là, tu es sorti du boulot. Enfin, t'es arrivé à 19h. Tu vois, t'as des journées remplies. Donc, comment tu trouves le temps et comment tes associés trouvent le temps de s'occuper de ça?
Alors, déjà, on fonctionne, c'est assez étrange, mais il y a une sorte de... il y a une confiance dans les rapports. De quand on confie quelque chose à l'autre, on sait que ça sera fait bien, et que c'est même pas de la délégation, on est juste cofondateur, donc il n'y a pas de rapport de salariat, il n'y a pas de rapport de je confie une mission, je dois checker si ça a été fait ou pas. Moi, je peux pas faire ça en ce moment, je suis occupée, est-ce que tu fais? Ok, je fais. Ou sinon, laisse tomber, c'est pas géré, c'est pas grave, on fait avec ce qui peut être fait.
Vous avez une organisation informelle efficace?
Complètement déjà. Informelle, déjà, complètement informelle, complètement à distance et complètement secondaire. Enfin, parce qu'on a tous des activités principales et c'est pas ça l'activité principale. Donc on fonctionne vraiment par c'est quoi la priorité maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi les tâches? Chacun prend sa tâche et hop, disparition. Qui peut donner plus de temps que les autres? Donc quand il y en a un qui peut donner plus de temps, ben c'est lui qui s'occupe de tout.
Et toi individuellement alors? Tu me disais tu passes entre 1 demi-heure et 2 heures par jour sur ça, donc c'est vraiment quelque chose qui te passionne là.
C'est génial. Ben, en fait, ça c'est depuis octobre. Donc l'idée est née en juillet. En août, je me suis occupée à plein temps de ça quand même. Enfin,
wow.
Pas à plein temps. J'étais consultante pour l'Organisation Internationale du Travail à Alger. Et c'était un travail de consultant, donc je dispose de mon temps, je gère mon temps. Et donc, août-septembre, j'étais à Alger, enfin, entre la France et Alger, je faisais ce boulot de consultante, de recherche, de référencement, etc., pour rédiger un guide sur l'entrepreneuriat féminin. Et donc, je répartissais mon temps vraiment, c'était 50-50, c'était pas du 1 demi-heure, 2 heures par jour. Et 50-50 sur des journées qui duraient 18 heures, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc, ça, c'était du gros boulot. Là, pour le coup, donc j'étais aidée à distance, mais l'événement se passait en Algérie, c'était notre premier événement. J'avais des bénévoles, je travaillais avec des bénévoles qui étaient hyper efficaces aussi. J'avais une équipe de trois personnes qui étaient aussi à plein temps dessus, qui ont travaillé sur le sponsoring, qui ont travaillé sur plein de choses. Donc moi je fonctionnais par priorité, de qu'est-ce qu'il faut pour que cet événement ait lieu. Pas qu'est-ce qu'il faut pour en faire un truc extraordinaire alors que c'est le premier.
Donc toujours, ouais, c'est une start-up.
Ouais.
Donc, ok, donc c'est aussi une des clés du fait que vous arrivez à faire ça à temps partiel, c'est que vous n'êtes pas perfectionniste. Vous êtes susceptible de faire en sorte que les choses se passent.
On est perfectionniste sur la priorité.
C'est intéressant ça.
Alors,
comment tu définis la priorité?
En gros, quel est notre produit? Ça, on ne peut pas couper dessus. Sur ça, même s'il faut qu'il soit minimum viable, le minimum viable doit être le plus parfait possible, vu le temps imparti. Donc il y a les contraintes, ok, mais on fait en sorte qu'il soit, je sais pas comment dire.
Le mieux possible.
Ouais, le mieux possible
par rapport aux contraintes. Oui.
C'est ça, le mieux possible. Donc c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur un truc. Je sais pas, par exemple, les startups aujourd'hui, là, on a fait 2 événements. On est censé enchaîner avec le Nigeria, on est censé enchaîner avec Istanbul bientôt, on n'est pas encore sûr. Il y a des contrats qui sont en train d'être signés. On a en gros 5 pays d'ici le mois de mars prochain pour faire des événements. Et moi, je suis très très tentée de, par exemple, dire « Oh là, oh là, oh là, oh là, là, stop, j'ai besoin de ralentir, on a besoin de s'occuper des startups qu'on a. »
Oui, parce que c'est ça, vous avez tellement de pays différents et de législations différentes, vous risquez pas un peu de faire du burn-out à tous les niveaux avec ça? Est-ce que c'est pas un risque de se diversifier autant dès le départ?
Ce serait un risque si on organisait les événements dans chaque pays nous-mêmes. Pour l'Algérie et le Maroc, c'était nous, parce que moi j'étais en Algérie et Yassine est au Maroc. avec l'aide du coup de Adil à distance et de Kiran quand il peut. Pour le Nigeria par exemple, on a un partenaire local qui va organiser l'événement et on fonctionnerait plus par licence avec un cahier des charges où les gens qui seraient intéressés pour avoir cet événement nous diraient et on serait pas
derrière. Donc tu vas franchiser le modèle finalement.
Donc en fait c'est la forme que c'est en train de prendre.
C'est super intéressant, c'est que vous avez déjà une grande ambition, une grande vision et en plus une exécution qui tout de suite immédiatement délègue beaucoup d'exécution aux autres finalement.
C'est... Ça n'a pas été un choix. On y a pensé, mais c'est venu à nous. Partir dans les autres pays, c'était une stratégie, mais plus à moyen terme qu'une stratégie immédiate. Et finalement, c'est venu à nous directement parce que, par le réseau.
Les opportunités.
Quand je te parlais de réseau, j'avais fait un congrès hyper important l'année dernière dans le cadre du Global Entrepreneurship Network et j'ai rencontré un ami et un contact et quelqu'un du Nigeria qui est venu faire l'événement startup à qui j'ai demandé de venir m'entourer et coacher les startups en Algérie et qui m'a dit il faut absolument qu'on ramène Altitude à Lagos l'année prochaine. Et j'ai dit ok, l'année prochaine c'est loin. Il m'a dit ok, on fait ça plus vite alors. Et du coup voilà, on part à Lagos, là on est en train de régler les problèmes pratiques, mais c'est notre partenaire sur place, c'est lui qui s'occupe de l'événement, on va pas partir au Nigeria, appeler le traiteur, appeler trouver une salle, tous les problèmes logistiques, sinon ce serait pas gérable. En fait sinon on pourrait pas faire autant d'événements de toute façon. Globalement, c'est vraiment essayer de trouver, c'est avoir des partenaires. Par exemple, en Jordanie, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui est très très intéressé. La Jordanie est vraiment à la pointe aujourd'hui dans les pays arabes. Et dans les pays émergents.
À quel niveau ?
Surtout financier, dont tu parlais, tu sais, paiement en ligne.
Ah oui, d'accord.
Les choses comme ça. Ils ont un super accélérateur, l'accélérateur de la Queen Alania. Ils ont des grands VC dans le monde arabe qui sont consacrés aussi.
Donc les VC, c'est ceux qui investissent dans les startups.
Oui, c'est les venture capital. Donc du coup, si on passe par la Jordanie, ça peut être intéressant, en particulier pour le réseau des startups marocaines, algériennes, nigérianes.
Parce que du coup, tu peux peut-être utiliser ces infrastructures en Jordanie pour les startups en Maroc, par exemple.
En fait, on fonctionne comme chaque événement grossit notre réseau de mentors et de coachs. Donc, toutes nos startups, on est en train de mettre en place la plateforme pour qu'ils aient accès à ça très très vite, doivent être formés et le seront par les coachs et startups de chaque pays auquel on va. Donc, c'est comme ça qu'on leur donne accès à notre réseau. Même sans événement d'ailleurs, tous les gens qu'on connaît, qui sont intéressés, font partie parce qu'ils aiment être au contact des entrepreneurs et veulent aider les startups et tout. Donc on les met dans la plateforme et ils sont en contact et ils accélèrent et ils prennent par exemple des startups soit par affinité, soit par stratégie et disent bon voilà, on mentor cette startup, on coach cette startup et tout. Sachant que chacune aura un plan d'accélération. On a déjà commencé, par exemple, avec les startups algériennes, mais pour l'instant, c'est physique parce qu'on n'a pas encore la plateforme. Ils partent donc à Startup Algeria, qui est un journal et un blog géré par des entrepreneurs dans lequel il y a plein d'entrepreneurs qui passent. Et à chaque fois qu'ils passent par Alger, ils mentorent les startups. Donc, par exemple, avant chaque événement, ils sont passés là-bas, ils ont été mentorés. Et ces coachs-là ont fait partie de l'événement Startup Algérie.
Donc, ils font du coaching one-to-one.
Ouais.
Ah, wow. Donc, vous proposez quand même pas mal de choses intéressantes. Donc là aujourd'hui la personne qui regarde cette vidéo, qui est toujours là, donc qui est très motivée, qui se dit ouais moi justement un projet de start-up au Maroc, en Algérie, en Tunisie, concrètement comment il fait pour passer par vous, pour se faire aider par vous?
À l'état de projet,
ou même qu'il vient juste de créer sa start-up,
il faut qu'il trouve une compétition et qu'il s'inscrive.
D'accord, donc, pour l'instant vous fonctionnez uniquement à la compétition. Et donc comment on est au courant de ces compétitions là?
Celle du Maroc vient d'avoir lieu, celle d'Algérie.
Donc vous pouvez les annoncer sur votre site?
Oui.
Ok, donc vous allez sur le site, donc tu peux redonner le site?
Startupaltitude.com.
Voilà, encore une fois, il y a le lien dans la description. Mm-hmm.
Et on a les pages Facebook, Startup Altitude Algeria, Startup Altitude Morocco.
Il y en a une par un pays.
Ouais, et Startup Altitude Nigeria qui est en train de petit à petit
se développer.
Voilà. Et les Twitter. Et Instagram aussi, je pense, je ne m'occupe pas du tout du social media. Donc...
Okay.
Mais oui, le Twitter aussi. Il faut aller sur la page Facebook. Celle de donc Startup Altitude Algeria et Morocco, normalement, sont assez pleines d'informations. Et les, sur les dates, ça va venir au fur et à mesure. Après, si vous êtes intéressé, écrivez-nous. Si vous avez des propositions, si vous voulez parler de votre startup, vous pouvez nous écrire sur la boîte mail de. Donc c'est event, E-V-E-N-T, @startupaltitude.com.
On va mettre le, l'email qui s'affiche là.
Et on vous répondra. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et si vous avez envie d'être mis en contact avec d'autres startups, une fois que vous allez sur notre site internet et que vous voyez des startups qui éventuellement vous intéressent en particulier, etc. N'hésitez pas non plus parce que je pense, là on est en train de mettre en place par exemple un Slack donc, qui est une application de travail en commun pour mettre toutes les startups dessus.
Ah oui.
Donc je suis en train de...
Et quel sera le bénéfice de ça
ben, pour moi, échanger c'est hyper important. Pour...
Donc c'est bien, tu organises tes start-upers en mastermind finalement pour que
je pense que ça va
créer un cerveau collectif au top. Intéressant, ok. Mais je ne sais pas si personnellement j'utiliserais ce genre d'outil pour ça. Je pense qu'une réunion Skype par exemple par mois c'est déjà énorme. Et un groupe email d'échange parce que tu vois quand tu as des chats en permanence c'est très très perturbant pour la productivité. Mais bon, ça vous faites ce que vous voulez, c'est juste mon point de vue tu vois. Moi à votre place je ferais un groupe d'échange email ou plutôt un groupe Facebook privé peut-être. Et puis comme ça les gens peuvent y aller juste le soir par exemple tu vois, et puis un appel Skype par mois ou un appel sur Zoom tu vois, pour qu'on voit la tête des gens. Ok, donc super intéressant. Vous voyez, bon, c'est encore jeune hein, c'est le petit bébé qui sort de son œuf là, mais on sent le potentiel et il y a déjà des leçons très intéressantes encore une fois pour les entrepreneurs. Donc on voit bien l'application aussi de toute la méthodologie de startup, c'était très intéressant. Donc concrètement, quels sont vos objectifs, où est-ce que tu te vois dans un an? Où est-ce que tu vois ce projet dans un an?
Ben, je vois déjà une grande plateforme avec un gros network. Et si on a, en gros, je considère qu'on aura réussi si des événements qu'on aura fait d'ici là, c'est-à-dire ce qu'on cible, c'est au moins une dizaine, on a 5 startups. Qui sont vraiment en bon chemin et qui commencent à bien vendre et qui ont déjà leurs produits sur le marché.
Et du coup, quel est votre business model? Comment vous allez gagner de l'argent avec ça? Parce qu'il faut que votre structure gagne de l'argent, sinon ça ne va pas fonctionner.
Donc, pour l'instant, c'est sur les événements et sur le sponsoring. Donc, c'est pas viable. Ultimement, c'est la plateforme. C'est faire des parties payantes pour les startups qui ne sont pas concernées directement par nos compétitions.
Ok. Donc, les startups qui le souhaiteront pourront passer par vos services en les payant.
Pour bénéficier du global network.
Intéressant. Et c'est une très très bonne manière aussi de démarrer tout ça, de faire des compétitions et de vous créer déjà un écosystème qui est gratuit pour les startups. Et du coup, ça, c'est très bon ça, parce qu'en plus, les gens sont motivés du coup pour rentrer dedans.
C'est-à-dire, une sorte... plus l'accès au marché aussi. Parce que le système de sponsoring, il est intéressant. Je pense qu'on peut servir de plateforme pour beaucoup d'entreprises dans les pays émergents qui, même si aussi grosses qu'elles puissent être, elles peuvent subir vraiment des gros obstacles administratifs qui peuvent ralentir, si on a des entreprises nationales qui nous sponsorisent et qui souhaiteraient partir dans un autre pays africain, on offrirait aussi des services d'organisation d'événements pour eux. Par exemple, une entreprise qui serait intéressée par le marché nigérian et par les startups sur place sur certains domaines dirait « Ok, j'aurais besoin de tel et tel, produit » et on lancerait une compétition de startup sur le thème qui les intéresse, par exemple. Mais ce serait un startup altitude buy.
Ok, c'est un peu comme les TEDx, quoi.
Ouais.
Ok. Bon, super. Alors, et toi, tes projets personnels, juste avant qu'on démarre, tu me partageais justement que tu avais un projet de création d'entreprise. Tu veux peut-être en parler rapidement?
Ouais. Alors, c'est un peu une drogue, l'entrepreneuriat.
C'est ça le truc, hein, c'est que quand tu démarres, c'est vraiment difficile de s'arrêter.
Ouais.
Il y a, quand je m'étais fait interviewer par Mariana qui a fait un MBA, qui a écrit un bouquin sur pourquoi c'était le plus mauvais investissement de sa vie. Et elle m'a posé une question, elle m'a dit, est-ce que tu pourrais redevenir employé? J'ai fait, non. Et elle m'a dit, c'est dingue, à chaque fois que je pose la question à l'entrepreneur, c'est toujours la même réaction viscérale, tu vois, où tu, même physiquement, tu vois que ça passe pas, quoi. Donc, ouais. C'est intéressant. Alors, quel est ton projet, du coup?
Alors, mon projet, c'est... je veux créer ma marque de produits cosmétiques naturels et bio.
Voilà. Et alors, donc, tu vas faire ça, bien sûr, en plus de ton travail, en plus de ton projet donc d'accélérateur. Et voilà.
Ouais.
Donc, après, tu vas dormir, on ne sait pas quand, mais peut-être à la retraite.
Non, c'est possible. J'y réfléchis. Non, ça rentre dans mon côté. Ça rentre parfaitement dans le planning. Si j'ai réduit... En fait, si je passe à une demi-heure à une heure par jour, ce qui est faisable là, pour altitude, en bossant les week-ends évidemment sur mon projet personnel, en répartissant évidemment le week-end entre altitude et le projet personnel, en gros, j'ai essayé, enfin, je répartis bien mon temps. C'est jouable en termes de gestion du temps, sachant que...
Après, pour l'instant, c'est juste une idée. Donc,
oui.
T'as pas encore de rien de concret, on en parlait juste... pour montrer aussi que tu...
Voilà, ouais, j'ai commencé à tester la recette. Hein.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire comme expérience d'une startup pour être sur le terrain?
Alors, je vais commencer... En gros, je vais trouver ma clientèle et je vais développer mon produit par ma clientèle. Donc, je suis en train de chercher ma niche. Mon idée, c'est vraiment d'essayer de développer des produits cosmétiques en passant... En fait, de parler de terroir de la cosmétique et de... Donc, j'ai même pas encore trouvé le nom de ma marque. Hein. Mais j'ai vraiment envie de... Comment dire? De faire une sorte de nomade des cosmétiques. Pour parler des produits cosmétiques traditionnels algériens, par exemple ce que ma grand-mère faisait, l'huile d'olive dans les cheveux, l'huile de rose, les huiles essentielles de rose, l'eau de rose, l'huile de figue de Barbarie, ou les masques à la figue de Barbarie, les exfoliants à partir de ça. J'ai vécu en Inde et mes colocatrices indiennes m'ont appris des tonnes de recettes à base de farine de pois chiche.
Farine de pois chiche.
Ouais, de farine de pois chiche, d'huile de coco, d'huile de sandalwood, je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est de l'huile essentielle de, voilà, de faire des savons naturels, okay. Au jasmin.
Donc t'as ton positionnement déjà original.
Ouais, donc j'ai envie que ça soit comme ça.
Et comment tu vas te connecter au terrain le plus vite possible alors?
Par des meet-ups. En rencontrant les gens.
Ça, c'est intéressant. Meetup.
Meetup.
Meetup, si vous ne connaissez pas, c'est un truc qui vous permet d'aller à des événements partout dans le monde sur tous les sujets. Et vous pouvez aussi en organiser un très très facilement.
Mm.
Et c'est une excellente manière de, bah, de justement tester un petit peu une idée d'entreprise parce qu'on peut rassembler des gens autour d'un thème commun et voir, bah, déjà voir si ça intéresse les gens ou pas.
Ouais.
Et puis une fois qu'on les a rencontrés, bah, c'est super, on a accès au marché d'une manière qu'on n'aurait pas pu avant.
Bah, je fais ça pour apprendre l'espagnol et pour.
Hablas espagnol?
Si, un poco.
Un poco.
Si, un poquito.
Bien.
Estoy aprendiendo. So. Donc voilà, je suis arrivée à Londres, j'ai commencé les meet-ups en espagnol et les meet-ups en arabe pour entretenir mon arabe parce que j'avais un peu mis ça.
Donc les meet-ups, voilà, si vous ne connaissez pas, allez voir le site meetup.com. Et ici aussi une application sur votre smartphone qui est vraiment top.
Et si vous passez par Londres, venez à mon meet-up. J'en ai un le 17 décembre.
Qui s'appelle
je suis en train de le mettre en place, donc à partir du 14.
Bon, on mettra le lien aussi dans la description aussi. Mais bon, tu sais, les gens vont peut-être voir la vidéo dans un an. Donc, bah voilà, il tape ton nom et puis.
Bah, à ce moment-là, voilà. J'aurai mon site internet et j'aurai mon produit. Vous pourrez acheter le produit en ligne. Et...
Voilà, tout sera disponible normalement.
Donc voilà. Donc l'idée folle du moment, c'est ça.
Eh ben super, écoute, merci beaucoup Soumaya d'avoir partagé tout ça avec nous. Alors du coup, qu'est-ce que juste pour la fin, là, pour les gens qui veulent justement se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le monde des startups, quel conseil tu pourrais leur donner?
Alors là, comme je suis débutante, ça me paraît un peu...
Non, mais tu as déjà un peu d'expérience, puis toi-même, tu fais partie d'un écosystème qui récompense des startups, donc...
Alors, comme débutante, parce que... Ouais, je dirais juste... Trouvez ce qui vous fait le plus envie et faites-le, même si vous avez un boulot. Parce que aujourd'hui, si j'adore mon boulot et si j'aime y aller et si j'adore passer ces heures sur mon bureau, c'est parce que j'ai tout le reste à côté, quoi.
Et, c'est pour ça que t'es la plus relaxe, en fait.
Ouais, je pense.
Que je connaisse. Parce que t'es la seule avocate que je connaisse qui fait des trucs qui la passionne à côté, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que quand je passe ma journée au boulot, en sortant, je me dis pas « c'est tout
». Ça, c'est intéressant, c'est intéressant, ça.
Je me dis pas « c'est ça ma vie ». Ouais. Alors que c'est génial, tu vois, ce que je fais. Mais ce serait pas du tout génial s'il y avait que ça.
Ok, bah écoute, merci pour ce conseil, vous avez compris. Trouve un truc qui vous passionne, passez à l'action et ça va tout de suite, ça va être un petit peu comme le sel de votre vie,
ouais,
ou le petit goût sucré qui fait toute la différence. Et ben écoute, donc tu peux nous donner le nom de l'incubateur, de l'accélérateur, pardon, de startup.
Startupaltitude.com.
Voilà, startupaltitude.com. Et puis donc, le jour où tu vas créer ton site, on pourra le trouver en tapant Soumeya. Quel est ton nom de famille?
Rachidi.
Rachidi. Ok. Donc merci les gens qui se bougent, les rebelles intelligents.
Hey, merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, eh bien, allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur olivier-roland.tv. Hein, olivier-roland, R-O-L-A-N-D.tv. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain.